ces réformes annoncées pour la rentrée, parlons-en avec nos invités. Jean-Paul Domergue, responsable de l'association Solidarité Nouvelle face au chômage et ancien directeur juridique de l'UNEDIC, bienvenue à vous. Patrick Martin, bonjour. Président délégué du MEDEF, bonsoir. La situation de l'emploi s'améliore. Patrick Martin, est-ce qu'il est logique pour vous de réduire les aides ?
Réduire les aides, ça n'est pas la réponse à tout. Hein. Ça fait partie d'un faisceau de décisions à prendre. Mais il faut aussi parler de formation professionnelle, d'accès à l'emploi via le logement, de salaire et de conditions de travail. Mais oui, il y a une poche de chômeurs, je me garde d'en faire une généralité, qui peut-être reviendrait plus facilement vers l'emploi si ces conditions d'indemnisation étaient modifiées.
Est-ce que vous avez la moindre idée de ce qu'elles représenteraient ?
Écoutez, en l'état, hein, il y a à peu près 500 000 postes qui sont ouverts et qui ne trouvent pas preneur. Ce n'est pas généralement dans des emplois qui demandent des qualifications très élevées. Je dirais au doigt mouillé, hein, permettez-moi l'expression, il y a probablement plusieurs centaines de milliers de chômeurs qui reviendraient. On observe des comportements assez étonnants, même si le taux de CDI a considérablement augmenté, il est dorénavant majoritaire, il y a un certain nombre de salariés qui refusent par exemple des CDI, c'est un peu incompréhensible en tout cas pour les chefs d'entreprise.
Jean-Paul Domergue, cette ligne affichée par le gouvernement, quand ça va on durcit, on assouplit si ça ne va pas, est-ce que vous la trouvez adaptée ?
Bah écoutez, nous, on considère que, en fait, la réduction des droits n'est pas la solution au chômage, parce que, d'abord, il faut noter qu'il y a 40% des demandeurs d'emploi qui ne sont pas indemnisés, donc ça, c'est quand même significatif, et que pour eux, ben, les difficultés d'emploi sont là. Par ailleurs, si on prend les chiffres de l'INSEE, on sait qu'il y a 700 000 chômeurs de longue durée, c'est-à-dire un chômeur sur trois. Et si on ajoutait à cela des personnes qu'on appelle faisant partie du halo autour du chômage, qui sont environ 1,8 million et qui sont également, elles, pas indemnisées, on voit bien que c'est pas uniquement en agissant sur ce facteur, réduction des droits, qu'on résout les problèmes du chômage.
Pour pointer en gros la problématique qui est soulevée par cette question des droits, c'est est-ce que le fait de toucher des allocations est un frein au retour au travail? Ça, vous y croyez, Jean-Paul Domergue?
Alors ça, c'est une vieille marotte. Hein. C'est, il y a des dizaines d'années qu'il y a des débats à ce sujet. Bon, s'il n'y avait pas d'assurance chômage, certains prétendent que tout le monde, du coup, travaillerait et qu'il y aurait moins de chômeurs. Enfin bon, on peut aller jusqu'à cette extrémité. Non, si vous voulez, les allocations d'assurance chômage permettent à quelqu'un, eh bien, de se positionner sur le marché du travail et de saisir l'opportunité qui correspond à ses attentes. Donc, compte tenu de sa qualification, eh bien, et de sa situation personnelle. Donc, il ne faut pas considérer que c'est un luxe de bénéficier d'allocations pour retrouver du travail, mais c'est quelque chose de tout à fait normal.
Patrick Martin, je reviens vers vous. Vous parliez de ces milliers, de ces centaines de milliers d'emplois disponibles aujourd'hui qui ne demandent pas forcément une qualification importante. Est-ce que ça n'est pas aussi le problème ? Quelqu'un de qualifié n'a pas forcément envie d'aller vers un emploi où il ne va pas s'y retrouver et qui ne correspond pas du tout à sa qualification.
Mais ça, c'est un choix individuel qui est respectable dans l'absolu, à la réserve près que la même personne, finalement, est indemnisée par la collectivité.
Elle a cotisé, quand même, pour avoir des droits.
Oui, mais enfin, on est dans un système de répartition, c'est comme pour les retraites. Et donc, la clé de la réussite en France, c'est quoi ? C'est d'augmenter le taux d'emploi. On l'a bien vu, par exemple, le déficit de la sécurité sociale est sensiblement inférieur à ce qui était imaginé pour 2022, parce que, précisément, il y a eu beaucoup d'emplois créés. Donc, qu'individuellement, y compris des jeunes diplômés, hein, c'est ce que le président de la République a évoqué, des jeunes diplômés prennent une année sabbatique, c'est leur droit, c'est leur décision personnelle, mais faut-il que ce soit aux frais de la collectivité.
Mais si ça, c'est pas représentatif de tous les chômeurs en France, Patrick Martin. On ne parle pas d'étudiants qui prennent une année sabbatique aujourd'hui sur des chômeurs de longue durée, par exemple.
Non, mais je ne parle pas d'étudiants, je parle de salariés. Non, mais je me suis gardé, c'était mon premier propos, d'en faire une généralité. Il y a des situations extrêmement diverses, mais par exemple, ayez en tête que les entreprises financent à hauteur d'1,7 milliard d'euros chaque année le plan d'investissement dans les compétences pour les personnes les plus éloignées de l'emploi. Donc, vous voyez, on n'est pas obtus. On sait très bien qu'il faut des réponses ciblées, mais le fait de moduler les conditions d'indemnisation en fonction de la conjoncture nous paraît être une solution intelligente.
Et en même temps, est-ce qu'elle est adaptée à la logique économique ? C'est-à-dire, quand ça va, on durcit les règles, alors qu'a priori, plus on a de gens qui travaillent, plus on a de gens qui cotisent, moins on a de gens qui ont besoin d'indemnisation.
Mais écoutez, l'UNEDIC, hein, ça n'est pas lié que à la période Covid, a une dette de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Hein,
mais un excédent de 2,5 milliards d'euros prévu cette année et de 4 milliards d'euros dans deux ans.
Oui, ce qui veut dire qu'il faudrait 20 ans pour combler la dette. Donc c'est normal, c'est contracyclique, si vous voulez, qu'on constitue des réserves en période faste pour être plus à l'aise, je dirais, en période compliquée, et à ce moment-là, pouvoir mieux indemniser les chômeurs qui, effectivement, objectivement, auraient plus encore de difficultés à trouver un emploi.
Jean-Paul Domergue, est-ce qu'on arrive aujourd'hui à mesurer les premiers effets de la réforme de l'assurance chômage qui a déjà été entamée par le gouvernement, hein. On est aujourd'hui aux étapes suivantes.
Alors, je crois que c'est prématuré. L'UNEDIC prépare à ce sujet une étude approfondie. Elle est en cours de préparation, donc il faut attendre sa publication. Mais si vous voulez, pour revenir sur le sujet en fait, de la réponse aux besoins de main-d'œuvre, bon, on est bien conscient qu'il y a des difficultés propres à certains secteurs d'activité. Ils sont bien connus. La DARES pour l'emploi, dans ses publications, on a dressé la liste. Mais cela, il faut bien savoir ce que ça représente. Hein. Selon Pôle emploi, ça représente 6% à peu près des besoins de recrutement, c'est-à-dire, selon les années, entre 255 000 et 400 000 emplois. Hein. Donc, regardez quand même, il faut relativiser en fait cette difficulté. Alors, de façon plus générale, on peut dire qu'en dehors de ces secteurs où il y a des difficultés, il peut y avoir aussi des difficultés d'appariement, hein, offre-demande. Alors ça peut tenir à des problèmes d'adaptation, enfin des problèmes de formation, comme c'était souligné tout à l'heure, mais aussi un manque d'efficacité des recruteurs. Il n'y a pas que les problèmes, si vous voulez, de l'efficacité de la recherche d'emploi. Il y a des entreprises qui ne savent pas recruter, quoi, ou qui recrutent mal. Parce que, alors je ne parle pas des grandes, hein, parce que là, elles ont des outils, elles ont des services qui sont en général très bien adaptés, mais des entreprises plus moyennes ou petites, qui n'ont pas les éléments pour apprécier, si vous voulez, les compétences ou le potentiel de certains candidats. Et ça, on le regrette, nous, à Solidarité Nouvelle Face au Chômage. On pense que, effectivement, comme aussi ça a été dit, si un chômeur doit traverser la rue, il faut que l'employeur aussi, en fait, en fasse la moitié du chemin, si vous voulez. Il faut qu'il adapte son offre pour faire évoluer l'expression de ses besoins.
Un dernier mot avec vous, Patrick Martin, si vous le voulez bien. On parlait d'adaptation, justement, à la demande aux postes à pourvoir aujourd'hui. Quand on parle, par exemple, de distance entre le lieu de vie et le lieu de travail, pour qu'une personne aujourd'hui inscrite à Pôle emploi accepte une offre, est-ce que l'on doit imaginer des mécanismes permettant de supporter le coût, par exemple, d'un déplacement de 30, 40 ou 50 kilomètres ?
Alors déjà, je suis d'accord avec ce qu'a dit Jean-Paul Domergue, et ça vaut pour Pôle emploi aussi, hein, qui expérimente des solutions très efficaces, mais c'est pas encore une généralité. J'ai évoqué tout à l'heure le logement. Hein. Il y a plus de la moitié des salariés français ou des chômeurs qui refuseraient une offre d'emploi de peur de ne pas pouvoir se reloger à proximité, et c'est particulièrement sensible aujourd'hui avec les coûts de déplacement. Donc construire des logements à proximité des emplois, sur un marché du logement qui est très tendu dans beaucoup de zones, c'est une des solutions, et bien sûr des logements abordables. Or, on sait qu'il y a des files d'attente pour accéder à ces logements qui sont très dissuasives pour qui aurait une opportunité professionnelle éloignée de son logement actuel.
Patrick Martin, président délégué du MEDEF, Jean-Paul Domergue, responsable de l'association Solidarité Nouvelle face au chômage. Merci à tous les deux d'avoir débattu ce soir en attendant des discussions qui s'annoncent animées à la rentrée sur ce nouveau volet de la réforme de l'assurance chômage.